Radio Kapi. Oh, Kapi. Le journal Billy Ivan Lutumba.
Il est temps que les CC sortent la RDC du bourbier et du glissement. Déclaration ce lundi de la présidence de l'église du Christ au Congo à l'ouverture de la 53e session du comité exécutif national ordinaire à Kinshasa. Et de leur côté, les évêques catholiques affirment qu'ils n'abandonneront jamais leur engagement pour l'avènement d'un état des droits en RDC. Nous parlerons dans ce journal de l'insécurité au Nord Kivu avec cette exécution des deux agents de l'ONG Hydraulique sans frontières kidnappés samedi par des présumés Nyatura. Les deux corps ont été retrouvés hier. Dans la deuxième partie de ce journal, vous suivrez Frédéric Bishawishi du Rotary International qui nous parlera de leur engagement dans la lutte contre la poliomyélite à travers le monde et de la lutte contre les menaces climatiques qui pèsent sur la santé de l'homme. Bienvenue, bonsoir à tous. L'église du Christ au Congo lève le ton face à la situation de crise que traverse la RDC. Il est temps que les CC sortent la RDC du bourbier, du gémissement, a déclaré le président et représentant légal des protestants à l'ouverture de la 53e session du comité exécutif national ordinaire des CC ce lundi à Kinshasa. Selon le révérend Dr Bokundo Abolikabe, les CC a reçu beaucoup de pressions concernant son absence aux manifestations de ses frères catholiques, mais elle veut être consultée avant de prendre part active à une quelconque manifestation, a-t-il dit. Concernant les élections, le pasteur de l'église protestante déclare que son église se désolidariserait de la CENI si le calendrier électoral n'est pas respecté. On l'écoute au micro de Jeff Ngoy.
Nous sommes appelés des protestants parce que nous protestons toujours contre ce qui n'est pas juste. Nous subissons une forte pression quant à notre position face aux actions de nos frères catholiques. Il est temps de faire entendre la voix protestante en République démocratique du Congo. Ceux qui pensent que notre participation ou accompagnement à une quelconque démarche est nécessaire feraient mieux de nous consulter avant de se lancer dans cette entreprise. Bien-aimés, la situation de crise généralisée que traverse notre pays doit nous pousser à nous demander sur la qualité de notre travail comme berger du troupeau du Seigneur. La Bible dit « Quand les justes se multiplient, le peuple est dans la joie. Quand les méchants dominent, le peuple gémit. » Proverbe 29, 2. Et nous savons que la situation du peuple congolais est un gémissement. Nous estimons qu'il est impérieux que les CC réfléchissent sérieusement sur le type d'homme qu'elle doit donner à la RDC, de l'aider à sortir du bourbier dans lequel elle s'est vautrée.
Autre déclaration de l'église toujours ce lundi à Kinshasa, c'est celle de la conférence épiscopale nationale du Congo à l'issue de l'assemblée plénière extraordinaire tenue du 15 au 17 février. Dans ses déclarations, lues devant la presse par le secrétaire général de la CENCO, les évêques disent être fidèles à leur mission prophétique. Par conséquent, ils n'abandonneront jamais leur engagement pour l'avènement d'un état des droits en République démocratique du Congo. Leur prise de position est consécutive à la persistance et l'aggravation de la crise sociopolitique du pays qu'ils ont analysée lors de leur assemblée plénière extraordinaire. Des détails avec Askien Zigbiatero.
Ils sont 39 évêques et archevêques à signer cette déclaration. Ils disent être profondément inquiets par la répression sanglante de deux marches pacifiques organisées par le CLC. Ils ont vivement condamné la violence avec laquelle ces deux marches ont été réprimées. La CENCO s'interroge, quels crimes ont-ils commis ces chrétiens et citoyens congolais qui ont réclamé pacifiquement l'application intégrale de l'accord de la Saint-Sylvestre? D'après ce prélat, l'application actuelle de cet accord est sélective et biaisée. Les évêques pensent que s'obstiner sur cette voie ne peut que conduire à des élections contestables et à de nouvelles crises. Dans leur recommandation, la CENCO réaffirme l'urgence d'aller aux élections en 2018. Mais pour y parvenir, elle demande avec insistance, entre autres, le parachèvement de mesures de décrispation du climat politique contenu dans l'accord de la Saint-Sylvestre, la redynamisation de la CENI et les dispositions relatives au Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication CESAC. La CENCO demande aussi aux autorités compétentes d'annuler les édits interdisant les manifestations pacifiques.
À Kananga cette fois-ci, le gouverneur du Kasaï central a publié hier son équipe gouvernementale. Elle compte 10 ministres et un secrétariat exécutif composé de 3 membres. 3 femmes font partie de ce gouvernement, comme le dit François Kadima.
Publiant la liste des membres de son gouvernement, le gouverneur indique avoir tenu compte, entre autres, de réalités sociologiques, des compétences et de la représentativité de la femme. Trois ministres proviennent du territoire de Dibaya, trois autres de Kazumba et les trois territoires restants sont représentés chacun par un ministre. La ville de Kananga complète la liste. Parmi les ministres, Mathieu Ntolo est en charge de l'intérieur et de la sécurité. Le professeur Grégoire Ngalamouloumé s'occupe du plan, l'agriculture et du paysanat. Parmi les trois femmes, Pauline Kamandou est à l'éducation et à la jeunesse et nouvelle citoyenneté. Elisabeth Mombo est en charge du travail et de la prévoyance sociale. Lorraine Bouilly s'occupe des affaires sociales et de l'action humanitaire. En dehors de ces 10 ministères, Denis Kambayi a créé un secrétariat exécutif et la personne désignée qui passe également pour le porte-parole du gouvernement vient de l'opposition. Il s'agit de Joseph Kachama du mouvement social pour le renouveau de Pierre Lumbi. Il a deux adjoints. De Kananga, François Kadima, Radio Kapi.
Dans la province du Kwilu, la société civile du territoire de Gungu démarre son nouveau programme appelé Technique de Balance. Un exercice devant permettre à la population de peser ou mieux d'évaluer les capacités de ses candidats aux prochaines élections législatives et provinciales. Pourquoi ce programme, Fabien Kambizé?
C'est pour répondre à un certain nombre de questions de la population qui s'est plaint des résultats mitigés qui apportent ses représentants que la société civile de Gungu a initié ce programme dit des techniques de balance. Cette technique consiste à sélectionner sur base de quelques critères les véritables candidats du territoire qui peuvent réellement représenter la population aux prochaines assemblées législatives et provinciales. Ces critères ont trait aux actions menées à travers le territoire par les candidats, la compétence, l'éthique, la recevabilité et la volonté à revenir régulièrement à son fief électoral. Cette société civile sensibilise déjà la population sur les responsabilités qui attendent et sur la crédibilité, la légitimité, le pouvoir et le sens du service rendu et à elle de voir si ces derniers répondent à toutes ces exigences pour la représenter. Joachim Kusamba conclut que c'est en novembre prochain, pendant la campagne électorale, que les candidats seront enfin mis sur la balance. Pour lui, c'est des candidats qui obtiendront un poids entre guillemets de plus de 60 kilos pourront bénéficier de la confiance de la population aux prochaines élections. Kikwit Fabien Kambizi, Radio Okapi.
Nous parlons cette fois-ci de la sécurité à travers le pays et nous commençons par le Nord Kivu. Il y a eu exécution des deux agents de l'ONG Hydraulique Sans Frontières, IFRO, pris en otage par des présumés Nyatura. C'était le samedi. Leurs deux corps ont été retrouvés hier dans les périphéries de Nyanzale, territoire des Rutshuru, une centaine de kilomètres au nord de Goma. Selon les sources administratives et de la société civile locale, un autre coéquipier des deux victimes serait toujours entre les mains des ravisseurs. Pendant ce temps, le projet d'aménagement des sources d'eau en exécution par cette ONG dans la zone est suspendu. Bernard Nyangui nous relate les circonstances de ce drame.
Ces agents, au nombre de 6, venaient de Kibirizi et se rendaient à leur base à Nyanza le samedi, quand ils sont tombés dans une embuscade des présumés Nyatura au niveau de Mushikiri, entre Kikuku Nyanza et un groupement Mutanda. Deux ont réussi à s'enfuir, mais les 4 autres seront pris en otage. Alors que ces miliciens les amenaient vers une destination inconnue, ils se seraient affrontés la nuit tombée avec une autre faction Nyatura à Ishola, dans les périphéries de Nyanza. Deux otages, notamment l'ingénieur Moïse Anzoli et le chauffeur, seront tués. L'un a réussi à s'enfuir alors que le quatrième serait toujours détenu par les ravisseurs qui réclameraient $2000 avant sa libération. Les corps des victimes seraient en route pour Butembo. Pendant ces temps, Kibirizi, Bualanda, Nyanzale et Bambou, où il faut exécuter un projet d'aménagement des sources d'eau potable, les travaux sont suspendus. Rappelons que Buito restait instable depuis plus de 2 ans du fait de l'activisme des groupes armés à connotation ethnique. Cet incident renforce la psychose au sein de cette chefferie où la MONUSCO et ses partenaires venaient récemment d'achever une campagne de sensibilisation pour la cohabitation pacifique. Goma, Bernard Nyangui pour Radio Okapi.
Sécurité toujours. Les FARDC poursuivent leur offensive baptisée Oussalama 2 pour la neutralisation des présumés ADF dans le territoire de Beni au Nord Kivu. Elles annoncent avoir pris le contrôle d'une position stratégique de ces présumés ADF et abattu un responsable militaire de ce groupe armé, nous dit Martial Papi Mukeba.
Ce responsable militaire des présumés ADF a été tué ce lundi matin au cours des violents affrontements avec les FRDC aux environs de Mapobu, une zone située à plus ou moins 33 km au nord-est de la ville de Beni. Selon les sources militaires, il a été atteint d'une balle dans la tête et dans l'une de ses jambes, et cela pendant qu'il dirigeait une contre-attaque des présumés ADF contre les FRDC après avoir été délogé la veille par les FRDC des lignes de leur position stratégique située dans le triangle dit de la mort entre les localités de Mbaou, Kamango et Eringeti. Ces mêmes sources parlent d'une position conquise par les FRDC constituée des caves, de 3 maisons en tôle, de plusieurs maisons de fortune, des champs de maïs et des haricots. Les sources du commandement du secteur opérationnel Sokola et Grand Nord confirment ces informations et précisent toutefois que le corps de ce présumé responsable ADF tué par les FRDC ce matin sera formellement identifié dans les heures qui suivent. Beni, Martial Papimoukeba, Radio Okapi.
Et puis ce bilan en Ituri, on compte 2 assaillants tués et une arme récupérée au cours d'une attaque lancée hier par les FRDC contre un groupe d'hommes armés non autrement identifié à Katanga. C'est un village situé à près de 200 km au nord de Bounia. Le porte-parole de l'armée en Ituri indique que l'objectif était de démanteler un bastion de ces rebelles qui cherchaient à s'organiser dans la région. Explication de Martial Kiza.
C'est vers 18h heure locale qu'une colonne d'hommes armés a été aperçue par les forces loyalistes, précisément dans une petite localité appelée Pandozo, dans la chefferie de Walindouatsi, dans les territoires des Mahagi. Selon les porte-parole des FARDC à Ituri, ces assaillants habillés en civil et lourdement armés circulaient dans la zone où les forces loyalistes étaient en patrouille. Dans leur poursuite, selon le lieutenant Jules Ngongo, un échange de tirs a éclaté entre les deux forces. Bilan, selon les FARDC, des bandits armés ont été tués et une arme de type PKM ainsi que 28 cartouches ont été récupérées par l'armée. Un militaire FRDC a été grièvement blessé d'après la même source. Information confirmée par la société civile de Mahagi. Selon son président Pascal Oudaga, cet affrontement a causé le déplacement des habitants du village affecté par ce combat. Il appelle les forces armées à beaucoup de vigilance car selon lui, il y a plusieurs armes qui circulent dans la région depuis la dégradation de la situation sécuritaire dans les territoires voisins d'Enjougou. Bounia, Martial Kizabiamongo, Radio Okapi.
Pendant ce temps, dans le territoire de Nyonzou, dans la province du Tanganyika, la situation sécuritaire s'améliore. Constat fait ce lundi par l'autorité locale qui relève toutefois le contrôle de certains sites miniers par la milice Apanapale. Il s'agit des sites de Lunga et Moussebe, connus pour l'exploitation artisanale d'or. Au micro d'Expedi Mwamba Mubi, Moma Maloba, administrateur intérimaire de Nyonzou, nous dit ce qui a changé dans ce territoire et ce qui reste à faire.
La situation sécuritaire est en train de s'améliorer petit à petit. À Nyonzou centre, il n'y a pas de problème, au sud également. Et aujourd'hui, la route Kabeyama et Lengwe est réouverte. Les gens vont à Lengwe et ils rentrent sans problème. Bon, les efforts sont en train d'être déployés pour récupérer d'autres parties telles que Moussebe, Lunga, là où les éléments Apanapale continuent à y demeurer. Moi, je pense que le moment venu, nous allons recouvrer l'entièreté de notre territoire.
Avant de passer à la page internationale, parlons de cette nouvelle économie qui est promouvoir un partenariat gagnant-gagnant dans le secteur pharmaceutique entre la République de l'Inde et la RDC. C'est l'objectif principal de la conférence économique qui s'est tenue ce 19 février ici à Kinshasa. Cette rencontre, organisée par l'ambassade de l'Inde à Kinshasa, réunit des opérateurs économiques du secteur pharmaceutique des deux pays. Paul Matendo était aussi de la partie pour Radio Okapi.
Les produits pharmaceutiques ont constitué les produits d'exportation les plus importants de l'Inde vers la République démocratique du Congo, a indiqué l'ambassadeur de la République de l'Inde à Kinshasa. Ashok Warrier a souligné également l'importance du secteur pharmaceutique indien pour la promotion de l'industrie congolaise. Il a émis le souhait de voir les professionnels de la santé de la RDC profiter du programme de formation organisé dans son pays. De son côté, l'administrateur délégué de la Fédération des entreprises du Congo, FEC, a relevé que l'industrie pharmaceutique congolaise n'est pas florissante. Kimona Bonongé explique cette faiblesse par les pillages des années 90. Il attend qu'à travers cette rencontre d'affaires, les opérateurs économiques congolais s'inspirent de l'expérience indienne. Présente à cette conférence, Orly Ilunga, ministre de la Santé, invite le gouvernement indien à mettre à la disposition de la RDC son expertise dans le domaine de la santé.
Actualité Afrique Monde.
Et nous partons du Togo où les délégués du pouvoir et de la coalition de l'opposition se sont retrouvés ce lundi matin comme prévu à Lomé pour l'ouverture du dialogue politique avec sept représentants pour chaque camp. Au menu de cette rencontre, des discussions très attendues pour tenter de sortir de la crise qui dure depuis le mois d'août avec une mobilisation de l'opposition sans précédent. Des manifestations ont lieu régulièrement contre le régime de Faure Gnassingbé qui a succédé à son père Gnassingbé Eyadema en 2005. Au Zimbabwe, Morgan Tsvangirai sera enterré le 20 février dans sa ville natale de Buera. L'ancienne figure historique de l'opposition est décédée le 14 février à Johannesburg, en Afrique du Sud, des suites d'un cancer du côlon. Alors que ses funérailles n'ont pas encore eu lieu, sa famille et son parti, le mouvement pour le changement démocratique MDC, se déchirent déjà pour sa succession. Presque dans la même région, Mozambique, 17 personnes ont été tuées dans la nuit de dimanche à lundi par des montagnes de déchets charriées par des pluies torrentielles dans la capitale du Mozambique. Maputo, selon le dernier bilan des services de secours. Le précédent bilan faisait état de 14 morts. À la suite des très fortes pluies, des ordures se sont abattues sur des habitations précaires dans le quartier des Oulene, dans la banlieue de Maputo, tuant les habitants dans leur sommeil. 5 maisons ont été détruites. Ça fait plus de 10 ans que la décharge aurait dû être fermée parce qu'elle est pleine, mais ils continuent à y empiler les déchets, a dénoncé une responsable de quartier. Les violentes pluies qui se sont abattues sur Maputo depuis dimanche ont également provoqué des inondations endommageant routes et habitations. Et puis cet appel de la France et de l'Allemagne contre la monnaie Bitcoin. Les deux pays européens réclament en effet un grand débat sur les conséquences pour l'économie mondiale des crypto-monnaies devenues une ruée vers l'or numérique. Le cours du Bitcoin, qui n'appartient à aucune banque, est passé de quelques millièmes de dollars en 2009 lors de sa création à plus de 10 000 dollars aujourd'hui, au risque d'inquiéter les autorités. Cette monnaie inquiète les banquiers du monde entier car elle bouscule les règles de la finance. Et nous terminons en Syrie où au moins 44 civils, dont 4 femmes, 4 enfants et une femme, ont été tués lundi dans des bombardements du régime syrien sur l'enclave rebelle de la Ghouta orientale près de Damas, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Ces nouvelles frappes interviennent au lendemain d'un renforcement des positions du régime de Bachar al-Assad autour de l'enclave, laissant entrevoir un assaut majeur imminent.